Merci beaucoup et merci pour l'invitation aux organisateurs. Et je voudrais faire quelques petites remarques avant la présentation. D'abord, vous avez beaucoup de chance, peut-être que vous l'avez déjà vu venir, mais les colloques ne pouvaient pas venir dans un moment plus important que le moment que nous sommes en train de vivre aujourd'hui même. Parce que ce matin, il y a l'éditorial de British Medical Journal qui a publié une enquête ou une analyse de la gestion de la grippe par la OMS et par les pays européens. Il y a aussi un article dans le Guardian d'aujourd'hui qui traite exactement la même question ce matin. Il y a, si je comprends bien, le Conseil de l'Europe qui va publier aujourd'hui l'enquête qu'ils font depuis 6 mois sur la gestion de la grippe. Et il y aura aussi un grand dossier sur la même question dans le monde de demain. Donc vous voyez, c'était vraiment le moment bien choisi. Une deuxième remarque, le titre de mon intervention, qui se marquait dans le programme « Peut-on vraiment faire confiance à la OMS ?» Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Parce que sinon, ça aurait été très court ma présentation, parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'OMS. On aurait fini là. Mais je vais essayer de vous dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à l'OMS. Et je vous dirai aussi que quand on parle d'OMS, qui est l'OMS, je vais essayer de faire une distinction, parce qu'il y a une chose, l'OMS, les fonctionnaires qui sont à Genève, mais l'OMS sont aussi les pays membres, c'est une agence multilatérale, et donc dans quelle mesure la responsabilité, ce n'est pas seulement des gens du secrétariat à Genève, mais c'est plutôt les pays membres de l'OMS qui font ou qui ne font pas ce qu'on devrait faire pour gérer une agence de santé publique. On verra bien, je crois, à mon avis, c'est une expression peut-être forte, mais les pays industrialisés, y compris la France, sont en train de prostituer l'OMS. Je vais vous expliquer pourquoi. On est dans un processus de privatisation d'une agence publique. Et je voudrais faire remarquer aussi, on vient de dire, j'ai passé un bon moment, beaucoup trop peut-être de temps à l'OMS. J'ai fait probablement partie du problème. C'est la première fois que je m'exprime en public après avoir quitté l'OMS parce que c'est fait que 3 semaines. Donc je voudrais clarifier que je ne parle pas ici au nom de la directrice générale de l'OMS, donc, et je l'ai dit avec beaucoup de satisfaction. Finalement, je voudrais juste dire une anecdote. Je suis très touché de parler aujourd'hui ici à la Maison de l'Amérique latine. Je venais très souvent ici quand j'étais étudiant, et dans cette salle, j'avais écouté Pablo Neruda il y a très longtemps. Je n'aurais jamais rêvé à l'époque que j'allais parler dans la même salle et qu'il y avait quelqu'un qui venait m'écouter, comme vous êtes aujourd'hui ici. J'ai divisé mon exposé dans ces 5 points. Il y a d'abord, mais je vais aller très très rapidement parce que vous connaissez très bien, quel est le problème de l'accès aux médicaments. Je vais vous donner des petits signes à droite à gauche, quelle est la situation du problème, quelle est la tragédie de ce problème. Je vais parler un petit peu de l'OMS, de la crise que je crois que vit l'OMS aujourd'hui comme une agence des Nations Unies. Je vais prendre le cas de la pandémie, parce que le cas de la pandémie, à mon avis, c'est une espèce de miroir de ce qui se passe aujourd'hui dans l'ensemble de l'OMS. Et la gestion de la pandémie reflète beaucoup, beaucoup les autres problèmes qui sont dans les autres domaines techniques de la OMS. Je vais parler aussi de la faculté qui a l'OMS d'adopter des conventions et de faire des traités, qui n'a jamais ou très peu été utilisé, on va voir ça, et quels seraient les défis pour l'avenir. Donc tout d'abord, je vais vous rappeler rapidement quelque chose qui a été déjà traité par les orateurs avant. Quel est le contexte de ce débat depuis une dizaine d'années? D'abord, il y a une tension terrible entre la santé publique et l'accord sur les APIC ou les nouvelles règles de commerce international émis par la OMC à la création de la OMC en 1995. Il y a une tension très forte depuis 7-8 ans sur les prix des antirétroviraux. Rappelez-vous que les cocktails, la trithérapie, coûtaient de l'ordre de 10 000 dollars, 12 000 dollars par personne par année il y a 7-8 ans. Et aujourd'hui, on peut trouver les mêmes traitements à moins de 100 dollars en Afrique du Sud. Et il y a une autre chose, une tension horrible, et ça a été dit ce matin aussi, les restrictions dans le domaine de la propriété intellectuelle posées par les accords bilatéraux. D'abord, il y a eu tout après la convention de la ministérielle de Cancun en 2003. Les États-Unis ont changé de stratégie. Au lieu de continuer à négocier le commerce international dans un forum multilatéral, ils sont allés pays par pays. Ils sont passés une série, un peu plus d'une dizaine d'accords bilatéraux avec des pays en Amérique latine et en Asie, où il y avait toujours, ils s'essayaient de revenir sur les flexibilités que donnait l'accord sur les APIC. Maintenant, il y a toutes les négociations très récentes et en cours aujourd'hui de l'Union européenne, des accords bilatéraux avec beaucoup de pays, déjà des accords qui ont été signés en Amérique latine, et il y a d'autres pays qui sont en train de négocier avec l'Union européenne, et là aussi, il y a des restrictions, et des restrictions qui sont, et c'est intéressant, c'est même plus fort que les restrictions qui ont imposé les États-Unis lors de la négociation bilatérale avec les États-Unis. Et tout simplement parce que à cause de la clause de la nation la plus favorisée, et les États, une fois un pays comme l'Équateur, je ne sais pas l'Équateur parce que l'Équateur finalement il n'a pas signé, mais comme le Pérou a fait des concessions aux États-Unis, ces concessions sont données automatiquement à l'ensemble des membres de la OMC, donc à 153 pays. Donc, les concessions qui ont fait les pays en développement aux États-Unis, les Européens les ont eues automatiquement. Et quand ils demandent aujourd'hui des concessions sur la propriété intellectuelle, c'est parce qu'ils sont en train de demander plus de ce qu'ils ont demandé les Américains. Et il y a aussi, qui ça a été mentionné ici, les débats qui, à mon avis, c'était presque une farce de ce qui a été le débat de Doha et le débat sur le paragraphe 6, ou le fait, pour les personnes qui ne connaissent pas le sujet, l'accord sur les APIC, l'article 31F, disait qu'on pouvait faire une licence obligatoire seulement pour les marchés intérieurs. Et donc, les pays qui n'avaient pas une capacité de fabrication locale, donc les pays les plus pauvres du monde, ils ne pouvaient pas faire des licences obligatoires. Donc, la conférence ministérielle de Doha, en 2001, a demandé à la OMC de se pencher pour étudier et trouver une solution urgente, en 2001, urgente, et aujourd'hui, en 2010, elle n'a pas encore été ratifiée. On peut l'utiliser, mais c'est une exception et ça n'a pas encore été ratifié. Ça a été utilisé seulement par un pays, Rwanda, et à mon avis, personnellement, je crois que ça n'a pas marché. Donc c'était un débat très fort, mais qui finalement n'est abouti à très peu ou rien. Il y a aussi une chose qui a été mentionnée ici, c'était le cas, le fameux cas en 2001 ou 2000-2001, des 39 compagnies pharmaceutiques qui ont attaqué la loi de l'Afrique du Sud, la loi sur les médicaments de l'Afrique du Sud. Il y a le cas récent de Novartis contre la loi de l'Inde, au moment où l'Inde décide d'appliquer, ou décide, c'était engagé depuis le début. L'Inde, c'est le seul grand pays en développement qui n'avait pas appliqué l'accord des APIC, qui avait profité de la possibilité d'appliquer une exception d'une dizaine d'années. Et donc, ils ont dû faire une loi sur le brevet et appliquer pour le brevet pharmaceutique seulement en 2005. Et Novartis, donc, a attaqué la loi récemment. Et finalement, il y a un rapport de 3000 pages qui vient d'être publié en juin 2009, l'Union européenne indiquant que les laboratoires pharmaceutiques ou législateurs ont retardé ou bloqué l'entrée des produits génériques.
Retarder,
ils ont fait des manœuvres pour retarder l'entrée des génériques dans les marchés. Et ce sont des manœuvres très très connues, très classiques. On fait un petit changement cosmétique, on brevette ces changements et on ajoute une période de 20 ans encore. Il y a d'autres tactiques aussi pour bloquer l'entrée des génériques dans les marchés. Bien, si on va un peu à quelle est la situation de l'accès aux médicaments. Donc, on nous dit, la OMS, l'ONU-SIDA et l'UNICEF, ils nous disent qu'il y a 9 millions de personnes qui ont besoin de traitement d'antirétroviraux. Il y a seulement 3 ou 4 millions qui reçoivent des traitements aujourd'hui. Mais la OMS est en train de ces jours-ci, de réviser les guides de traitement. Et probablement, très probablement, apparemment, la conclusion, ça va être que les malades devraient être soignés beaucoup plus avant. Entrer en traitement déjà, et si ça arrive, donc d'un jour au lendemain, les personnes qui ont besoin de traitement vont être de 18 avant 2 millions de personnes. Je disais, aujourd'hui, les 97% des personnes qui reçoivent des traitements, de ces 4, 3 ou 4 millions qui reçoivent des traitements, ils sont traités avec les traitements avec des produits génériques. Mais on sait aussi, comme c'est le cas de l'Amérique latine, en Costa Rica par exemple, les 30% des malades qui ont déjà une résistance à ce qu'on appelle la première ligne de traitement, ils doivent passer un traitement de deuxième ligne et ce traitement il coûte déjà entre 4 et 5 000 dollars par personne par année, donc on revient tout de suite et il n'y a pas de négociation en cours sur les médicaments de deuxième ligne. Qui sont brevetés aujourd'hui. Là, je voudrais faire une remarque à votre question, le fait qu'il y a 98% des médicaments de la liste des médicaments essentiels qui sont hors de brevet. Ça, c'est vrai, en termes de nombre de produits. Le problème, c'est que de plus en plus, avec des pandémies comme le sida, dans la facture des médicaments, dans la facture pharmaceutique d'un pays, c'est 3 ou 4% des médicaments peuvent représenter les 25 ou 30% des dépenses pour les médicaments, comme c'est le cas du Brésil actuellement. Le Brésil, qui est le seul pays en développement qui donne des traitements gratuits, des antirétroviraux à 150 000 patients, aujourd'hui, la facture des médicaments pour le sida est de l'ordre de 25% de la facture de l'ensemble du pays. En sortant un petit peu de la tragédie de sida, si on regarde un peu ce qui se passe, on dit à la OMS, de plusieurs documents disent qu'il y a 10 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent par année dans les pays en développement. Et si ces enfants ils auraient un accès régulier aux médicaments, on pourrait sauver 8 millions de ces enfants. La situation dans les pays industrialisés, elle est très différente, mais il est évident aussi que dans des économies où la croissance elle est inférieure à 1%, les dépenses en médicaments sont en train de monter de façon incroyable. Il y a une dizaine d'années, il y avait aucun pays industrialisé qui dépensait plus de 6-7% du budget de la santé en médicaments. Aujourd'hui, vous voyez les chiffres pour les dépenses, les chiffres de 2008, il y a 12,4% aux États-Unis, il y a 16% en Allemagne, il y a 15% en France, il y a 22% du budget de la santé est dépensé pour l'achat de médicaments. Regardons un petit peu quelle est la crise qu'elle traverse la OMS. D'abord, on assiste à une espèce de, je disais tout à l'heure, privatisation du budget de la OMS. Aujourd'hui, les 82% des contributions de la OMS, ce sont des contributions soi-disant volontaires qui dépendent de 6-7 pays au maximum. Jusqu'à il y a 6 ou 7 ans, le budget de la OMS était payé par les contributions de l'ensemble des pays, de 192 pays qui donnaient une cotisation annuelle qui était proportionnelle au revenu du pays, etc., etc. Aujourd'hui, donc, les donateurs, ce sont seulement 5 ou 6 qui donnent les 82%. Évidemment que ce sont eux qui ont le pouvoir et ce sont eux qui décident quelles sont les priorités et dans quelle direction on doit aller. Et pour la première fois cette année dans l'histoire de l'OMS, le premier contributeur de l'OMS n'est pas un État, mais c'est une fondation, la Fondation Gates. Et le premier donateur de l'OMS. Donc, les priorités de l'OMS seront bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, décider plutôt à la Fondation Gates, parce que la Fondation Gates ne donne pas l'argent neutre pour être utilisé en ce qui vont décider l'ensemble des de pays membres. Ils disent quels sont les domaines où ils sont intéressés. Il y a un manque de neutralité et d'indépendance dans la mesure où on a débarqué ces fameux, qu'on en parle depuis 4-5 ans, ces fameux partenariats PPP, les partenariats privés et publics. Il y a plus de 80 à l'OMS. Et il y a beaucoup de partenariats qui sont très riches même. Et donc on débarque et ces partenariats sont financés par 2 ou 3 pays. Et ces 2 ou 3 pays, ils décident de constituer un conseil d'administration qui décide quelles sont les priorités, quelles sont les lignes, quelles sont les publications, quelles sont les recommandations. Donc l'ensemble des pays, quand ils se réunissent soit au conseil exécutif 2 fois par année, soit à l'Assemblée mondiale de la santé 1 fois par année, comme c'est le cas il y a 4 jours au mois de mai, ils ne peuvent pas décider si les programmes qui sont contrôlés financièrement par un groupe de pays ou un seul pays ou une fondation. Là, le cas typique, par exemple, c'est une initiative, un PPP français, très français, la United, qui est un PPP extrêmement riche parce que c'est la taxe pour les billets d'avion qui donne de l'ordre de 400 millions d'euros. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il fait des progrès, on a distribué une interview au directeur exécutif. Il a fait réduire les prix des antirétroviraux qui fait des achats via la fondation Clinton. On a l'OMS, on a essayé pendant une trentaine d'années de renforcer la capacité des négociateurs africains pour l'achat de médicaments, mais aujourd'hui, apparemment, on pense qu'ils ne peuvent pas les faire les Africains tout seuls, donc on appelle la fondation Clinton. Il y a aussi un manque de rigueur technique. J'ai l'habitude de dire que de la pandémie, on apprend beaucoup plus, moi personnellement, j'apprends beaucoup plus par les articles de Le Monde, Paul Benkimon et Annette, comment s'appelle, la correspondance à Genève, que par les communiqués officiels de l'OMS. On entend très, très, très peu. On voit comme si on ne voudrait pas dire les choses, etc. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Et un autre problème aussi, c'est qu'il y a 8 000 personnes qui travaillent à l'OMS, et de ces 8 000 personnes, il y a 5 000 qui sont à Genève. Donc, par exemple, le programme de lutte contre la malaria, il y a plus de 150 personnes à Genève, où il y a, pour l'instant, il n'y a pas de moustiques. Donc, la constitution de l'OMS stipule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue un des droits fondamentaux de tout être humain. Mais je me pose la question, quelles sont les lois pour faire valoir ces droits? Si c'est un droit des citoyens, si l'accès à la santé et l'accès aux médicaments, c'est un droit, où sont les lois pour faire valoir ces droits? L'Assemblée mondiale pourrait faire des lois, et on va les voir plus dans les prochains transparents, mais même s'il fait la loi, rappelez-vous que l'ensemble de la communauté internationale contrôle seulement les 18% du budget de l'OMS. Donc, quels sont les, si on rentre un petit peu sur ce qui est la grippe, on a accusé beaucoup, et vous allez le voir dans l'article du Guardian d'aujourd'hui, il est très fort, l'article de Le Monde demain, les rapports du Conseil de l'Europe, on parle beaucoup de la légèreté, de l'exagération probablement, de la recherche de visibilité médiatique, du conflit d'intérêts, de la manque de transparence, par exemple, avec la question qu'on a enlevé les critères de sévérité pour la déclaration de la pandémie, le manque de rigueur technique, on n'a jamais parlé, on n'a jamais dit très clair si le Tamivir ou le Tamiflu était efficace ou pas, apparemment non. Il y a eu tout le conflit qui a été largement traité ici en France par les moyens de communication, et il y a une enquête dans le Sénat aujourd'hui en cours en France sur la déresponsabilisation de l'industrie dans les contrats signés avec les pouvoirs publics, pas seulement en France, mais dans les autres pays. L'industrie et les États ont accepté qu'il y avait inclus, on disait que s'il y avait des réactions secondaires à cause de l'application des vaccins, les fabricants n'étaient pas responsables. Ça, c'était la première fois dans l'histoire des médicaments. Mais probablement, la question la plus grave, ce n'est pas une question où on a fait beaucoup de bruit. Je crois que la question la plus grave, à mon avis, qui s'est passée, il y a des gaspillages, tout ce que vous voulez. Mais l'arme la plus importante qui existe en santé publique, c'est les vaccins. Ça, c'est l'arme la plus importante. Et l'OMS et les États ont joué avec la confiance et la crédibilité. On a discrédité le concept lui-même de la vaccination. Arrivé à l'extrême de montrer que dans des pays, il y avait de 30% de personnel sanitaire qui refusait de se vacciner. Quel est le message que nous avons passé à l'ensemble de la communauté internationale? Que le vaccin, il peut être dangereux. Et demain, une personne simple dans un pays, même en France, ou dans un pays en développement, pour arriver, je ne vais pas vacciner mon enfant contre la poliomyélite parce que ça peut être dangereux, parce que vous pouvez le tuer. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et une autre chose très grave, à mon avis, surtout aujourd'hui qu'on parle d'austérité dans toute l'Europe occidentale, c'est le gaspillage de fonds publics qu'il y a eu avec les achats massifs qu'on a fait. Les achats qu'on a fait de vaccins. Pour vous donner des exemples seulement, en France, on a acheté 94 millions de vaccins. Je ne sais pas d'ailleurs d'où est-ce que ça vient les 94, parce que quand on pose la question, ils disent oui, parce qu'à un moment donné, tout au début, on pensait que, d'abord, on a assumé qu'il fallait vacciner toute la population, chose où il n'y a pas de base scientifique pour s'embarquer d'entrée et dire on va vacciner toute la population. Mais donc, apparemment, c'était à cause de ça. Mais ils disent non, on a acheté beaucoup plus de 60 millions que la population française, c'est 60 millions, 60 et quelques, parce qu'il fallait vacciner, au début on pensait qu'il fallait vacciner deux fois. Alors, ils ne savent pas multiplier, parce que s'il fallait vacciner deux fois, il fallait acheter 120 millions et pas 94. Donc là, il y a un chiffre où je ne trouve pas l'explication très claire. En Allemagne, on a acheté 50 millions, en Espagne, 37 millions, en Belgique, 12 millions, en Italie, on a acheté 48 millions de vaccins, et à la fin de janvier, il n'y avait même pas un million de personnes qui s'étaient fait vacciner. Oui. Même pas un million, il y avait 850 000 personnes qui s'étaient fait vacciner.
Je me demandais combien ont été vaccinés ici.
Non, je vais vous poser une question pire. Raconter une histoire pire. La directrice de la OMS, et ça c'est pas un secret que j'ai raconté ici parce que c'était dans une conférence de presse le 30 janvier dernier, il y a un journaliste qui l'a demandé s'il s'était vacciné. Et elle a répondu qu'il n'avait pas eu le temps de se faire vacciner. La directrice de l'Organisation mondiale de la santé qui a recommandé les vaccins. Donc, en parlant donc de gaspillage, vous avez vu donc le nombre de vaccins qui ont été achetés. Et ça a été acheté à un prix moyen de 10 euros par vaccin. Quand les fabricants de génériques nous disent qu'ils auraient pu les fabriquer à 2 euros. Donc il y a 80% de dépenses avec de l'argent public qui ont été dépensées pour un vaccin qui va finir très probablement, je ne vois pas d'autre solution, à la poubelle. Parce que comme le virus, il va muter et la grippe, c'est vrai, elle va venir à l'hémisphère sud d'ici un mois et demi, mais ces vaccins ne seront probablement pas utilisables comme il arrive depuis 30 ans pour la grippe saisonnière. On ne peut pas utiliser les mêmes vaccins. On a essayé ici, j'ai vu lire dans les journaux, on a essayé en France de vendre des vaccins. Par exemple, on a parlé d'un contrat pour le Qatar de 300 000 vaccins. Je ne sais pas combien de grippe il y a à Qatar où il fait 35-40 degrés. Donc, la question que je pose, pourquoi la OMS ni les gouvernements occidentaux ont pris en compte les mécanismes de licence obligatoire? Pourquoi, si on a décidé, pour des raisons qui, à mon avis, n'étaient pas extrêmement claires et nettes, de faire une vaccination massive de toute la population, pourquoi on n'a pas considéré la possibilité de faire une licence obligatoire? Ça aurait coûté les 20% de ce que les États ont dépensé finalement. Donc, face à cette situation, l'OMS est là en dilemme. Soit on continue, on se décide finalement d'utiliser les mécanismes à caractère obligatoire, ou on continue, comme ils font toutes les résolutions qui passent l'OMS les mois de mai, toutes les années, des résolutions où le langage est de recommander, et avec des formules comme pour promouvoir, appuyer, faciliter, encourager la collaboration, promouvoir, etc., etc. Je vais vous montrer quelques tests, quelques exemples, quelles sont les résolutions, les langages de résolution de l'OMS. Il y a quelques années, on a fait une résolution sur la propriété intellectuelle. Et qu'est-ce qu'il voulait l'ensemble de la communauté? Qu'est-ce qu'il voulait l'ensemble des pays? L'ensemble des pays voulait que l'OMS apporte un appui technique et normatif pour permettre d'utiliser les flexibilités contenues dans les accords des ATIC. Extrêmement clair. Après toute une négociation, qu'est-ce qu'elle dit le test de la résolution? Il dit fournir sur demande. C'était moi qui donnais l'assistance technique dans le cas de flexibilité. Sur demande, je n'ai jamais été dans un pays qui ne m'a pas demandé. Donc, demande, c'était évident que si on ne demandait pas à l'OMS, on n'allait pas. Mais au moins, mais sans demande, selon les besoins et en collaboration avec d'autres organisations internationales, en gardant l'idée que c'est la OMPI et la OMC qui ont une approche complètement différente. Donc, si on va prêter de l'assistance technique en matière de santé publique, il faut qu'on aille maintenant avec la OMPI et avec la OMC, parce que c'est la résolution. Je continue. Donc, un appui technique, y compris les cas échéants, pour des processus politiques, parce qu'il ne voulait pas dire faire les recommandations en matière de politique de santé. Donc, ouais. Ça, c'est, et tous les tests, à la fin, il y a des anecdotes impressionnantes parce que ces résolutions sont toutes négociées en anglais. Et on arrive à des phrases que même un anglophone, il n'arrive pas à lire. Et quand les traducteurs officiels de la OMS doivent traduire toutes ces résolutions dans les 5 langues, parfois vous lisez, moi je lis parfois en espagnol, des phrases qui n'ont pas de sens. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a une autre qui est très intéressante, c'est là, on parle depuis un bon moment de faire un traité comme, ou une convention, comme c'était la convention contre le tabac, dans le domaine de l'accès aux médicaments. Donc le pays, il demandait à la OMS seulement d'étudier la possibilité d'établir un traité ou une convention internationale en tant que forme alternative pour le financement de la recherche et développement pour les produits pharmaceutiques. On est arrivé, il y a un consensus, un constat que le système qu'il est aujourd'hui, le financement de la recherche et l'innovation via les brevets, il ne marche pas, il ne fonctionne plus pour l'ensemble de la communauté qui habite dans les pays en voie de développement, tout simplement parce que si jamais on fait une découverte, mais qu'elle est prise en otage, cette découverte, pendant une période de 20 ans, et que le pays ne peut pas la payer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on voulait demander. Et finalement, je vous laisse lire le deuxième paragraphe, quel est finalement le test qui a été approuvé. On n'arrive pas, si on ne connaît pas l'idée originale, on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit le deuxième paragraphe. Donc, et il faut me baisser parce que je vais prendre votre temps. La faculté de l'OMS pour adopter des conventions. L'article 19 de la Constitution de l'OMS dit que l'Assemblée de la Santé aura l'autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question de la compétence de l'OMS. Et après, ce qui a été négocié dans une convention ou un traité ou un accord cadre à la OMS, il sera ratifié par les instances nationales, donc par les parlements d'un pays, et ça devient une loi. Et aujourd'hui, vous voyez, il n'y a personne qui fume dans un transport public dans le monde entier. Il y a les lois anti-tabac sont une loi. Ça n'existe dans l'histoire de l'OMS. L'OMS a très peu utilisé la possibilité de faire des traités ou d'utiliser la jurisprudence pour appliquer les recommandations en matière de santé publique, a utilisé plutôt, a joué le rôle d'assistance plutôt qu'un rôle juridique. Il y a seulement des exceptions, la Convention cadre contre la lutte anti-tabac et les règlements sanitaires internationaux. La poliomyélite, vacciner contre la poliomyélite aujourd'hui n'est pas obligatoire. C'est pour ça peut-être qu'on n'arrive pas à la réalité. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faudra, le seul espoir que je vois à la OMS, c'est d'essayer de revoir totalement qu'est-ce qu'elle fait la OMS et qu'est-ce que pourrait faire la OMS et quel serait le rôle unique à la OMS. Il y a une trentaine d'années, il y avait deux acteurs dans le domaine sanitaire. Il y avait le ministère de la Santé et l'OMS. Il n'y avait personne d'autre. Personne qui touchait ou qui est acteur de la santé. Aujourd'hui, en 2010, vous avez l'UNICEF, la UNCTAD, le PNUD, il y a des centres collaborateurs de la OMS, il y a plus de 200 centres collaborateurs de la OMS dans le monde entier, il y a l'OMC, il y a la OMPI, il y a la Banque mondiale, il y a les banques de développement, il y a le Fonds mondial, il y a des fondations comme la Fondation Clinton, la Fondation Gates, il y a les programmes des gouvernements des États-Unis, le PEPFAR, il y a la Global Drug Facility, la unité que nous avons, à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure. Il y a beaucoup d'ONG à but lucratif et à but non lucratif. Il y a les fameux PPP qui sont à la OMS à Genève. Et il y a aussi l'industrie qui fait des donations de médicaments. Donc, à mon avis, ça, c'est la seule sortie pour la OMS, ça serait de prendre plutôt les chemins de faire des traités et des conventions pour que les recommandations en matière sanitaire deviennent une loi dans les pays. C'est un défi, c'est vrai, mais je crois que plus qu'un défi, c'est une opportunité et probablement la seule porte de sortie pour la OMS. Donc, à la réponse que vous avez mise sur mon comme titre non, avant, ça c'est la réponse que je voulais montrer, ça. Peut-on vraiment faire confiance à l'OMS? Ça c'est la réponse. Deux voix contre deux voix. Non, pardon?
Les femmes font confiance et les hommes ne font pas
Vous voyez, vous
confiance.
voyez? C'est parce que, peut-être parce que, à cause de la directrice de la OMS aujourd'hui, c'est une femme. C'est probablement à cause de ça que les femmes elles votent pour. Non, j'ai oublié cette dernière transparence que je voulais rapidement vous commenter. Je crois que on devait réintroduire de nouveaux concepts dans tout ce qui est ces débats, et c'est donc l'utilisation de la jurisprudence pour garantir l'accès à la santé. Santé et bien public, l'investissement dans la question de sécurité sociale que l'OMS a jamais promu dans les pays en développement, par exemple, la justice avant que l'assistance ou la charité, le Fonds mondial c'est la macro-charité, mais c'est de la charité, si demain les donateurs ils décident qu'on va plus donner de l'argent pour les médicaments, qu'on va les donner pour l'environnement parce que la planète elle est malade, donc on va donner pour l'environnement, on va pas donner pour la santé. Donc il faudra trouver des systèmes qui sont soutenables à long terme. Et les mécanismes de réglementation et de contrôle du marché pharmaceutique. Merci beaucoup.